Alors, on va continuer dans Genèse, au chapitre 15. On va aller Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6. Genèse, chapitre 15, versets 1 à 6. Des fois, quand on lit les Écritures, des fois, il y a des petites phrases qui sont mentionnées ou des mots qui sont mentionnés, mais on ne s'arrête pas nécessairement assez à réfléchir pourquoi ça a été mis là. Parce que une chose qu'il faut se souvenir, c'est que dans les Écritures sont inspirées par le Saint-Esprit. Et chaque mot qui est mis dans les Écritures a une raison d'être. Mais des fois, il faut réfléchir un petit peu pourquoi le Seigneur a mis tel mot. Alors, ça commence par des mots importants, après ces choses. Alors, on pourrait lire le chapitre 15, puis, après ces choses, de quoi il parle? Si on n'essaye pas de faire un petit retour en arrière pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire par « après ces choses », on va avoir de la misère à comprendre le sens du passage. Alors, « après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, en disant, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Et Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans laisser d'enfant après moi. Et celui qui a le maniement de ma maison, c'est ce Damézek Éliézer. » Abraham dit aussi, « Voici, tu ne m'as point donné d'enfant. Et voilà le serviteur né dans ma maison sera mon héritier. » Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant, « Celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Puis, l'ayant fait sortir dehors, il lui dit, « Lève maintenant les yeux au ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta postérité. » Et Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa cela à justice. Alors, c'est un passage, pas beaucoup de versets, six versets, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire juste sur ce petit passage-là. On pourrait passer plus qu'un sermon juste sur ce petit passage-là. Beaucoup de choses, beaucoup d'idées théologiques. Alors, ce qu'on va regarder aujourd'hui dans le chapitre 15, versets 1 à 6, c'est que la foi d'Abraham a des besoins. Et si Abraham est le père des croyants, fort probablement que ce que Abraham a comme besoin dans sa foi, nous aussi, dans notre vie, on va en rencontrer des choses similaires. Alors, il y a trois choses que je vois dans le texte que Abraham a des besoins. La foi d'Abraham a besoin d'être réconfortée. On va le voir dans le verset 1. Deuxièmement, la foi d'Abraham a besoin d'être rectifiée. Autrement dit, il croyait que l'héritier, ce serait son serviteur. Il était en train de perdre la foi en la promesse que Dieu lui avait dit, qu'il aurait un fils, et que par ce fils-là, dans sa lignée, la lignée de ce fils-là, arriverait le Messie. Mais là, lui est en train de... Il a besoin d'être rectifié. Autrement dit, le Seigneur lui dit, « Non, non, ce ne sera pas ton serviteur qui va hériter de toi. Ça va être vraiment le fils qui va sortir de terrain. » Alors, il a besoin d'être rectifié, versets 2 à 5. Et la troisième idée qu'on va regarder dans le texte, c'est que la foi d'Abraham a besoin d'être renforcée, dans le verset 6. Alors, pourquoi ça dit après ces choses? C'est pour nous rappeler que, là, ça fait un petit bout, on n'est plus dans Genèse, alors quelque part, ça peut arriver qu'on ait de la misère à faire le lien. Mais dans le chapitre 14, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu qu'il y avait eu une guerre entre les nations, 5 rois contre 4 rois, et que le fils, le neveu d'Abraham avait été pris là-dedans, et les biens, mais lui était parti avec des hommes, et il avait reconquis tout ça, il avait ramené les gens, et on avait vu l'histoire de Melchisédek et tout ça. Juste pour se replacer dans le contexte. Parce que quand la Bible nous dit, les premiers mots du verset 1, « Après ces choses », alors autrement dit, il faut essayer de se mettre dans l'esprit dans quel état d'âme était Abraham après que ces choses-là arrivaient. Il y a eu une guerre, oui, il était victorieux, mais là, il pouvait avoir des petites choses qui s'insinuaient dans son esprit. Ouais, mais tout d'un coup que les rois que j'ai vaincus, ils décident de se venger. Ou tout d'un coup, que les rois, il y en a qui sont jaloux, puis qui se disent, ben là, lui, il est en train de prendre beaucoup de puissance, et si on ne s'occupe pas de lui faire baisser sa puissance, ben il va nous envahir à notre tour. Alors, il y avait toutes sortes d'idées. Alors, la peur s'était installée dans sa vie, et le désappointement aussi. Désappointement par rapport à quoi? Dieu lui avait dit qu'il était pour avoir un fils. Et ça faisait déjà un bout de temps qu'il avait fait cette promesse-là. Parce que, des fois, on ne fait pas le lien, on ne prend pas la peine de calculer le nombre d'années qui s'est passé entre le moment où le Seigneur a fait sa promesse, le moment où là, il est intervenu, et le moment où, juste pour vous dire, à 75 ans, il s'est fait faire la promesse. Il était rendu, là, dans notre passage d'aujourd'hui, à 85. Ça faisait 10 ans que le Seigneur lui avait fait une promesse. Quand le Seigneur t'a fait une promesse, nous autres, on n'est pas très passés. 10 ans pour nous autres, c'est... Ouf, c'est long. Fait que là, il commençait à douter. Ben pour moi, ça n'arrivera pas. Fait que là, il est en train de faire des suggestions au Seigneur. Ben là, peut-être qu'il va falloir que je passe par mon serviteur. Puis, il ne voyait plus, là. Alors, disant, là, le Seigneur le rassure, lui dit, non, ça ne sera pas ton serviteur qui va être ton héritier. Ça va être, tu vas sortir de terrain. Isaac. Mais lui, il ne savait pas encore qu'il était brave, Isaac. Mais savez-vous à quel âge ça s'est accompli? Il faut voir, si on n'a pas une idée historique du nombre d'années, on a de la misère à saisir ces passages-là. 75 ans, la promesse. 85 ans, quand il se fait reprendre par le Seigneur en disant, non, ce ne sera pas lui, ça va être lui. Et il l'a eu à 100 ans. 85, donc, entre le moment où le Seigneur a fait la promesse et le moment de sa réalisation, il s'est passé 25 ans. Et là, on était ici après 15 ans, après 10 ans. Donc, le Seigneur lui a fait la promesse à 75. Ici, dans le passage, on calcule qu'il était rendu à 85. Il commençait à douter. Donc, il avait son état d'âme. Il n'était pas dur à regarder qu'est-ce qui se passait dans sa vie. Il avait de la peur. Il y avait du désappointement, puis il y avait du doute. Alors, est-ce que nous autres, dans notre vie, comme croyants, on peut vivre des moments comme ça, où il va y avoir de la peur, où il va y avoir du désappointement, où il va y avoir du doute? Alors, c'est exactement ce qui se passe dans cela. Et on voit, il y a une chose qui est merveilleuse, c'est que le Seigneur nous montre qu'il intervient toujours au bon moment. Au moment où tu tombes découragé, au moment où tu doutes de sa capacité d'accomplir ses promesses, il intervient au bon moment et il agit toujours avec intelligence pour ramener une paix de l'âme à son serviteur. Là, il y avait 85, faisait 10 ans, puis il était déjà tanné, d'après ce qu'on peut voir. Mais le Seigneur, il a dit, ce ne sera pas ton serviteur, ça va être ton fils qui va sortir de terrain. Mais ça a pris encore 15 ans. Mais ça veut dire qu'après 10 ans, le Seigneur avait besoin de le rassurer. Qu'est-ce que ça nous dit comme leçon à nous? Que nous aussi, on va passer par des moments pareils. Puis nous aussi, le Seigneur va choisir avec sa grande sagesse le moment d'intervenir pour corriger des choses. Alors, on a vu que sa foi, dans le verset 1, avait besoin d'être réconfortée. Pourquoi? Parce qu'il est envahi par la peur. Cette peur-là est double. Il a peur que les rois sur lesquels il a obtenu la victoire éclatante, lorsqu'il a libéré son neveu Lot et récupéré ses biens, ne veuillent se venger. Mettez-vous dans sa peau, là. Il était juste un petit groupe, 300 hommes, qui s'est battu contre plein de monde, qui était beaucoup plus puissant et beaucoup plus nombreux que lui. Et là, il a gagné, mais là, après, là, ta tête a continué à marcher, elle-là. Elle a dit, ouais. Mais peut-être qu'ils vont décider de se venger. Puis peut-être aussi qu'il va y avoir des jaloux. Il y a des rois qui étaient impliqués dans cette guerre-là, il est à 5 contre 4. Les nations voisines aussi qu'il y avait autour ont sûrement entendu parler de cela, et il y avait le danger qu'il y avait des envieux. Dans le sens de dire, « Ouais, mais lui, cet homme-là, là, si on ne fait pas attention, là, il va venir nous envahir, puis il va venir... » Alors. Ça réveillait l'esprit, qu'on pourrait dire, de guerre des rois qui ont été impliqués dans la guerre et aussi des nations environnantes. Donc, il y avait peur. Quand on a peur, on a besoin d'être rassuré. Pourquoi le Seigneur lui dit, ne crains point. Parce qu'il craignait. Le Seigneur ne te dira pas, ne crains point si tu ne crains pas. Et il est envahi par le désappointement, parce que le désappointement est encore double. Abraham s'était montré très généreux en permettant que les biens des rois leur soient remis intégralement et qu'il n'avait rien gardé sur lui-même, sur le butin. Vous souvenez, quand il est revenu, il a donné tout. La seule chose qu'il a dit, les hommes qui sont venus avec moi, je vais lui donner leur part du butin. Mais personne n'a eu, lui, personnellement, il ne s'est rien pris. Alors qu'il aurait pu prendre tout. Alors on voit la grandeur de son âme, sa magnanimité, sa noblesse d'âme. Alors là, il y a une autre chose qui se passe. Pourquoi il est désappointé? Quand le Seigneur t'a fait la promesse, tu as 75. Moi, j'ai 71, je me trouve vieux. À 75, tu es encore plus vieux. Mais là, tu dis, le Seigneur m'a dit, je vais avoir un enfant. Mais là, il y a un gros problème. Je vieillis, puis lui-même, par les mots qu'il va utiliser tout à l'heure dans le verset, on va le voir, il pense qu'il va mourir bientôt. Parce que je m'en vais sans enfant. Quand on voit dans l'original, d'après le commentateur, « je m'en vais », c'est qu'il veut dire « je suis sur le bord de crever et je n'ai pas d'enfant ». Alors, ça, on est 15 ans. Et il y a un autre problème. Juste, ça serait juste vieux, je ne suis pas trop pire. Mais ta femme est stérile. Elle n'est pas capable d'avoir d'enfant. Fait que là, tu as un double problème. Le Seigneur te fait une promesse, mais toi, tu es rendu un petit vieux, usé, et ta femme n'est pas capable d'avoir d'enfant. Fait que là, tu te dis, oh, est-ce qu'il va venir, cet enfant-là? Là? Comment il va arriver? Là? Alors, c'est ça qu'il était. Là. Il avait besoin d'être... Il était désappointé. Il ne voyait pas comment... C'est pour dire, hein, ça nous donne des leçons sur de la foi. La foi, nous, on a besoin de voir quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver. On a besoin de comprendre combien de fois dans les Écritures on peut prendre des passages où les choses qui arrivent, on ne peut pas les prévoir et on ne pouvait pas comprendre comment ça arriverait. Des fois, il y a eu des guerres. Je me souviens d'un passage en particulier, chaque fois que je lisais ça, 185 000 hommes. Il était sûr qu'il était pour être envahi. Je pense que c'était les Assyriens, si je me souviens bien. Puis, à un moment donné, le Seigneur lui dit, « Non, inquiète-toi pas, là, je m'en occupe. » Le lendemain, 185 000 corps de mort. Le Seigneur s'est en été occupé. Alors, comment la personne qui se fait envahir comme ça, là, elle se dit, « Ben là, ils sont plus nombreux que nous autres, ils sont plus puissants que nous autres. Donc, dans ta tête à toi, ils vont gagner. » Le Seigneur dit, « Non, non, pas de même ça marche. Là. C'est moi qui vais décider qui gagne et qui perd. » Alors, c'est intéressant de voir ça dans les Écritures, comment le Seigneur vient nous rassurer que même si nous, on n'est pas capable de concevoir la solution que lui a prévue, ça va arriver pareil. Ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de réfléchir là-dessus. Alors, l'impatience, il commence à y avoir de l'impatience dans la vie de... mais là, c'est bizarre parce que ça fait 10 ans, puis il est impatient déjà, puis il a encore 15 ans à attendre. Mais lui, il ne sait pas. Il reste encore 15 ans à attendre. Alors, son impatience l'amène à vouloir suggérer à Dieu une solution. Vraiment, là, si on dit qu'Abraham est le père des croyants, nous, est-ce qu'on n'a pas déjà fait ça, de vouloir trouver des solutions puis d'en suggérer à Dieu? Comme si... Il y en a qui me disent, ben non. Mais je vois que c'est humoristique. On a tendance à voir que lorsqu'il y a quelque chose qui nous semble impossible, on aurait tendance à vouloir quasiment dire à Dieu quoi faire. Mais là, si ça n'arrive pas par moi, si ça n'arrive pas parce que ma femme est stérile, bien, moi, dans ce temps-là, là, un serviteur, il pouvait être considéré comme étant son héritier à cause des lois de l'époque, puis tout ça. Mais alors, il commence à vouloir faire des suggestions au Seigneur comment régler le problème. C'est drôle, hein? On rit, là, mais on est pareil. Alors, c'est pour ça que ces passages-là, ils nous sont donnés pour nous montrer qu'on est exactement pareil. Et il y a une autre chose qui se passe, c'est qu'il commence à être envahi par le doute. Le doute. Qui n'a jamais connu des périodes de doute dans sa vie de foi? Des fois, on a du doute dans notre vie. Alors là, il se demande, Le Seigneur a fait une promesse, même ça date de même de la chute dans Genèse 3:15, et après ça, il y avait eu... La promesse, elle se déroule, puis elle se démontre de plus en plus. Mais là, lui avait eu la promesse que le Messie promis arriverait par l'intermédiaire de la lignée de son fils de sa propre chair et non pas de son... Alors lui, la lignée, il voyait comment le Messie va arriver si je n'ai pas d'enfant. Là, il cherche à donner une solution au Seigneur. Alors, il voudrait, parce que dans Genèse 12, si on recule un petit peu dans Genèse 12, le Seigneur avait fait une promesse comme de quoi les nations seraient bénies en Abraham. Autrement dit, à l'époque, les Juifs avaient tendance à croire que le salut, c'était juste pour eux autres. Mais le Seigneur avait fait une promesse que le salut s'adresserait aussi aux nations. Alors, si le Messie ne vient pas, ou il ne vient pas par la méthode promise, là, c'est compréhensible qu'il se pose des questions. Alors, il commence à penser, à douter, comment il va réaliser sa promesse. Alors, bien entendu, Abraham est triste et souffre de cette situation-là. Si nous, on connaît de la peur, puis on connaît du désappointement, puis on connaît du doute dans notre vie. Il y a trois éléments combinés. Ça, c'est pas une recette gagnante. Parce que quand on a ces trois affaires-là combinées, on est dans un état de... dépressif. Alors là, Dieu intervient. Vous voyez-vous le moment où Dieu intervient? C'est au moment où il est en train de vivre ces émotions-là. Il vient pour réconforter son serviteur. Et il va le faire d'une triple manière. Attends, on étudie le texte, là. Il va lui rappeler, premièrement, des vérités essentielles. Première chose qu'il fait. Il doit lui rappeler qu'il se doit de lui faire confiance malgré les apparences. Ça paraît impossible. Ma femme, elle n'aura pas d'enfant, elle n'a pas d'enfant stérile. Pour nous autres, à notre point de vue, à nous autres, c'est impossible. Au point de vue de Dieu, il n'a eu un enfant parce que le Seigneur l'a fait un jour, il a ouvert le sein de sa femme, et il en a eu un enfant, comme promis. Alors, il lui rappelle qu'il se doit, Abraham, de lui faire confiance, et il lui rappelle une autre affaire, qu'il est son bouclier. C'est quoi un bouclier? Quand on va à la guerre, là, on a une patente, là, en métal ou en bois, ou en mettez-le en ce que vous voulez, là. Mais ça a pour but de nous protéger des attaques de l'ennemi. S'il avait peur d'être attaqué par l'ennemi, le Seigneur lui dit, écoute, là, inquiète-toi pas, je suis ton bouclier. Dieu lui-même est le bouclier. Alors, il lui rappelle cela, là. C'est important qu'il lui rappelle cela. Qu'il doit, il est son bouclier, et il doit aussi lui rappeler qu'il est sa récompense. Parce que là, on a regardé le contexte tantôt. Il est allé à la guerre, il a tout donné, il a pris uniquement sur les butins ce qu'il devait donner aux hommes qui étaient venus avec lui pour se battre. Mais lui, il n'avait rien eu. C'est comme il pouvait avoir un petit pincement dans son cœur. Il dit, moi, c'est moi qui les ai libérés, là, mais moi, je n'ai rien. Alors, le Seigneur vient lui rappeler quelque chose. Ta récompense, là, ça ne sera pas des biens matériels. Ta récompense, là, c'est moi. C'est ça que le Seigneur lui dit. Je suis ta très grande récompense. Dieu est sa récompense. Alors, si vraiment il enlève les yeux sur le matériel, puis il met les yeux sur le Seigneur, ça ne se compare même pas. Ça ne se compare même pas. Et le Seigneur lui rappelle deux choses. Donc, il a... qu'il est le bouclier. Donc, il n'y a pas besoin de s'énerver que les militaires alentours, les rois, vont venir l'attaquer. Et non plus, il n'y a pas d'affaire à avoir du regret dans son cœur. Ben, c'est bien beau, j'ai tout fait ça pour eux autres, mais moi, j'ai rien. Le Seigneur lui dit, regarde à la bonne place. Je suis ton bouclier et je suis ta récompense. Deuxième chose, il va corriger... On voit que le deuxième point, on avait dit que c'était rectifier. Donc, sa foi a besoin d'être rectifiée. Parce que là, il commence à s'égarer un petit peu dans sa façon de penser. Alors le Seigneur, il corrige la fausse perception d'Abraham en lui réaffirmant qu'il aura bel et bien un fils par lequel viendra le Messie. Et quand on lit la Bible d'un couvert à l'autre, on voit Abraham, Isaac, Jacob, et si vous allez dans Matthieu, vous avez toute la liste de tous les descendants qui ont descendu jusqu'à l'arrivée de Jésus. La promesse, elle s'est accomplie, mais c'est le temps. Nous, on a des problèmes avec le temps. On aimerait que ça se fasse vite, puis ça se fasse dans nos délais à nous. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Ou le temps des hommes n'est pas le temps de Dieu. Et la troisième chose, il veut le fortifier en lui faisant prendre conscience que sa foi au Messie à venir lui est imputée à justice. Vous m'avez sûrement entendu parler souvent de l'imputation, cette fameuse doctrine de l'imputation. Quand on comprend la doctrine de l'imputation, là, on a compris, je vous le dis, là, un gros morceau dans la théologie. Un gros morceau. Alors, il est en train de lui faire prendre conscience que la foi qu'il a au Messie à venir, ça lui est imputé à justice. Autrement dit, le Messie à venir prendrait les péchés, que lui, ses péchés, est un pécheur, Abraham. Ses péchés seraient pardonnés à cause de l'œuvre de Jésus-Christ lorsqu'il viendrait sur la terre, et aussi à cause de la justice qu'on dit imputée à justice. Autrement dit, Dieu exigeait, ou exige encore de chacun des personnes qui veulent vivre avec lui dans le paradis, dans le ciel pour l'éternité, que ses péchés soient pardonnés et qu'il ait accompli la loi à la perfection. Alors, il est en train de lui faire comprendre que la promesse au Messie à venir et la foi qu'il place au Messie à venir, il lui impute à justice, donc il lui est en train de lui faire comprendre « tes péchés sont pardonnés » et à cause de la justice de Christ, la justice que j'exige que tu aies, elle l'a déjà accomplie. C'était merveilleux ce qu'il est en train de faire le Seigneur. Il rassurait, il corrigeait ce qu'il avait à corriger et il venait fortifier sa foi. Alors, c'est très important de réaliser ce qu'il est en train de faire parce qu'il fait exactement la même chose dans nos vies à nous. Alors, on va aller voir le verset 21, le verset 1, c'est-à-dire la foi d'Abraham a besoin d'être réconfortée. Verset 1. Après ces choses, donc, fait référence aux guerres qu'il y a eues, auxquelles il a participé, il était victorieux, mais il avait peur. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Voyez-vous, Dieu intervient. Il sait dans quel état d'âme est son serviteur. Et il intervient au bon moment. Et il corrige les choses et il vient le réconforter par la manière dont il a besoin d'elle. Il dit, il fut adressé à Abraham dans une vision. Une vision, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on voit de nos yeux. Ça peut être permettre que le Seigneur permet que dans l'esprit, tu es convaincu que Dieu te parle. Alors, dans une vision. En disant, Abraham, ne crains point. Si Dieu dit à son serviteur, ne crains point, c'est parce qu'il savait que son serviteur craignait. Ne crains point. Et là, il lui dit les deux choses que je vous ai dit tantôt. Je suis, parle de lui-même, sa personne même de Dieu, je suis ton bouclier. Autrement dit, même si toutes les nations de la terre voudraient t'attaquer, moi, je vais te protéger. Prends conscience de cela, puis tu vas arrêter d'avoir peur. C'est parce qu'à un moment donné, tu déplaces ta confiance. Tu n'as plus confiance au Seigneur. Là, tu as juste peur de ce qui se passe autour de toi. Alors, il dit, « Je suis ton bouclier et je suis ta très grande récompense. » Autrement dit, le fait que Dieu devient... C'est ta récompense. Dieu lui-même est ta récompense. C'est un peu comme nous quand on va aller au ciel. Notre récompense, ce ne sera pas d'avoir un million ou une belle maison ou un beau fort de l'année ou ce que vous voulez. Là. Ça va être Dieu lui-même qui va être notre récompense, la vision de Dieu. Et il est en train de lui dire, compare pas ce que tu crois avoir perdu dans les guerres avec moi-même. Mets tes yeux à la bonne place. Je suis ton bouclier, donc je te protège, et je suis ta très grande récompense. Si tu la compares au bien que tu as perdu, c'est rien du tout. » Alors, c'est vraiment à remarquer dans le verset 1 plusieurs choses. La première chose, c'est le moment du réconfort. Alors, on sait que la foi d'Abraham est ébranlée. Il a peur de la vengeance des rois envahisseurs et de l'envie des rois envahis qui ont été libérés. Il est fortement déçu aussi de voir qu'il n'a pas de fils par lequel la postérité promise, le Messie, pourrait s'accomplir. Et le doute commence à faire son chemin dans son esprit. Il est vieux, puis sa femme est stérile. Comment la promesse et la prophétie divine pourra-t-elle s'accomplir? Dans son esprit, les difficultés sont insurmontables. Quand on se souvient d'un peu dans la Genèse, moi j'aime beaucoup la Genèse pour ça, parce que Jacob, à un moment donné, était sûr, quand Joseph est parti, il était sûr que son fils était mort, parce que ses frères lui avaient fait laisser sous-entendre qu'il était mort. Et lui était sûr qu'il ne le reverrait jamais. Non seulement il l'a revu, mais il a revu les enfants de ses enfants. Troisième, quatrième génération. Alors, ce qui nous semble impossible, pour lui, dans sa tête à lui, Jacob, il est mort. Il voit non seulement l'accomplissement par son fils, mais il voit les enfants de ses enfants. Alors, nous aussi, des fois, dans nos vies, on peut avoir des choses comme ça qui nous semblent impossibles à réaliser, mais que le Seigneur peut faire pareil. J'avais une illustration qui m'avait été donnée par un professeur pour illustrer un petit peu le passage quand j'étais à l'école biblique. J'avais trouvé ça vraiment extraordinaire. C'est l'histoire d'un oiseau qui rentre dans une pièce par une porte qui avait été ouverte. L'oiseau rentre dans la pièce. Et là, il y a une personne dans la salle et là, il se dit, bien, je vais essayer de le pogner pour le ressortir dehors. Et là, l'oiseau, chaque fois que la personne, là, il se promène partout, il se cogne sur le mur, il se cogne sur le plafond, il se cogne sur les portes, et comme il est fou braque, comme on dit. Jusqu'à ce qu'il s'est tellement démené qu'à un moment donné, il a tombé de fatigue, il n'avait plus aucune force. Et c'est là que la personne s'approche, le prend, l'amène dehors, le fait voler. Ça ressemble ça à nos vies un petit peu, ça? On se débat, parce qu'on pense qu'on est capable de régler par nous autres mêmes. À un moment donné, c'est aussi au moment où on abandonne, ou que là, on tombe littéralement, et qu'on n'a plus confiance en nous. C'est là que le Seigneur agit. C'est un peu ça qui se passe là, dans le texte. Alors, le Seigneur sait exactement quand il doit intervenir dans nos vies, parce qu'il est infiniment miséricordieux, infiniment gracieux, infiniment bon. Alors, on a le moment du réconfort, après ces choses, les guerres, tout ça, mais on a aussi la manière. La parole de l'Éternel fut adressée. Alors ici, dans les Écritures, on a une loi qui appelle ça, la loi de la première occurrence. Quand il y a quelque chose dans les Écritures qui est mentionné pour la première fois, en théologie, il y en a qui se sont penchés sur ça, ils ont examiné. À toutes les fois qu'il y a quelque chose qui est mentionné pour la première fois, il y a toujours beaucoup de choses qui sont enseignées par ces passages-là. Alors, c'est la loi de la première occurrence, cette expression-là qui est si souvent utilisée dans les Écritures par la suite. La parole de l'Éternel fut adressée à... La parole de l'Éternel fut adressée, mais c'est la première fois. C'est significatif. La parole de l'Éternel a été adressée à son serviteur, le Père des croyants, à un moment où la foi... Abraham commençait à s'affaiblir un petit peu. Alors là, le Seigneur va utiliser la parole pour réconforter son serviteur. Il y a certains commentateurs qui voient dans l'expression « la parole de l'Éternel » une désignation du Logos préincarné, autrement dit de Jésus-Christ préincarné. Mais c'est pas sûr que c'est ça. Mais au moins, le Seigneur nous dit quelque chose. Il sait quand intervenir, puis il sait quel moyen utiliser pour nous réconforter. Et c'est quoi le moyen? La parole. Autrement dit, quand on est dans des états de même, si on lit nos Écritures continuellement, Dieu vient nous parler par sa parole, et il vient nous réconforter. Alors, ce qui est intéressant aussi, la parole de l'Éternel fut adressée, mais il y a un nom précis de mentionner, à Abraham. Alors, la parole de Dieu On peut lire la parole de Dieu, je peux vous lire des versets ce matin, un passage, puis ça pourrait arriver que les passages ne vous touchent pas du tout, comme ça pourrait arriver qu'il y en ait juste un ou deux ou trois dans la salle qui est touché par un verset en particulier. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche de même. Le Saint-Esprit, parfois, se sert soit de la parole annoncée ou de quelqu'un qui lit la parole, puis il y a un verset qui nous parle d'une façon particulière. J'ai raconté l'histoire d'Arthur Pink, quand il était sur le camp de son père, il revenait puis son père lui a dit « Les choses semblent droites aux yeux d'un homme, mais son issue, c'est la mort. » Un verset qui a fait un effet terrible dans sa vie, ça l'a sauvé. Et dans une vision, donc la vision nocturne, c'est une vision qui est certainement nocturne pour la simple et bonne raison que le verset 5 nous mentionne que Dieu le fait sortir dehors. Puis il dit « Regarde en haut, regarde les étoiles, essaye de compter si tu es capable. » À ce moment-là, il n'y avait pas le phénomène de la pollution nocturne. Moi, la fois que j'ai vu vraiment un vrai ciel étoilé, là, c'est quand j'avais été à Notre-Dame-des-Bois. Pas pour rien qu'ils ont fait l'observatoire là. Parce qu'à Notre-Dame-des-Bois, si tu vas là l'hiver, là, le ciel, là, si on pense qu'on envoie des étoiles, parce que la pollution nocturne, c'est toute la lumière qui émane des villes, nous cache jusqu'à un certain point le nombre des étoiles. Mais quand il n'y en a pas de pollution nocturne, c'est énorme la quantité. Alors le Seigneur, il n'est pas pour rien qu'il utilise ce moyen-là pour lui dire, « Regarde, ta postérité va être comme le nombre des étoiles. Compte-les si tu es capable. » Alors, le contenu, maintenant, du réconfort, trois choses que mon homme a mentionné tantôt. Premièrement, il lui dit avec des mots, « Ne crains point. » Alors, l'Éternel adapte son message à nos besoins et il adapte son message à nos états d'âme. Dans le psaume 31, verset 7, ça dit « Oui, je tressaillerai et je me réjouirai dans ta grâce parce que tu regardes à ma misère, que tu prends connaissance des détresses de mon âme. » Rien n'échappe au Seigneur dans nos détresses. Il y a des bouts qu'on traverse, des bouts dans la vie, ça peut être des années, où on n'a pas beaucoup de détresse. Ça va bien, comme on dit. Mais il peut arriver des moments où que là, les détresses, ils vont être importantes. Disons, je ne sais pas, moi, t'es marié, tu perds ta femme. Tu perds un enfant. Tu perds un être aimé. Ou d'autres choses. Tu perds ta fortune. Tu perds ta job. Là, la détresse, ça devient importante. Pensez-vous que le Seigneur ne les voit pas, nos détresses? Il les voit toutes. Et ce qui est à remarquer dans le texte, c'est qu'il intervient toujours au moment où c'est là qu'on a le plus besoin. Alors, il dit, « Je suis ton bouclier. » On a vu tantôt pourquoi il avait besoin de se faire dire ça. Autrement dit, « Moi, comme Dieu, je te protège personnellement. » Inquiète-toi pas de ça. Et deuxièmement, il lui dit, « Garde, si tu crois que tu as perdu quelque chose, là, en récompense parce que tu t'es rien pris pour toi-même, je suis ta récompense. » Compare pas ça, ce que tu as perdu, à ce que je suis. On va regarder la foi d'Abraham a besoin d'être rectifiée dans le verset 2 à 5. On va regarder, et Abraham dit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et voici, un fils de ma maison héritera de moi. » Alors, la rectification, elle est importante et elle a besoin d'être faite. Plusieurs émotions semblent troubler l'âme d'Abraham dans le verset 2. Le doute, que me donneras-tu? C'est comme s'il n'y avait rien eu déjà par le Seigneur. L'amertume, il y avait de l'amertume dans le cœur. Je m'en vais sans enfant. Dans les commentateurs qui connaissent l'hébreu disent, ça veut tout dire... Je suis sur le bord de crever, puis tu ne me donnes pas d'enfant. Alors, et l'amertume, alors il croit qu'il est près de la mort et que son épouse est stérile. Et le désespoir, c'est qu'il veut continuer à croire à la promesse de Dieu, mais qu'il ne voit pas comment ça peut s'accomplir, alors il cherche à suggérer un moyen au Seigneur lui-même. Alors, tout semble noir, tout semble sans issue. Et tout semble avoir des difficultés d'une grandeur insurmontable. Il faut se souvenir que Genèse 15, il faut le mettre en rapport avec ce que Dieu lui avait promis dans d'autres passages. Dans Genèse 12, par exemple, versets 1 à 3, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de ta naissance et de la maison de ton père, dans la terre que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras en bénédiction. » Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Alors, il est en train de lui dire que le salut, ça va aller jusqu'aux nations. Pourquoi? Par le Messie promis. Et Abraham s'en alla, c'est là que l'Éternel lui avait parlé et Lot alla avec lui. Et voyez-vous, l'âge, c'est pour là que des fois on a besoin de retourner un petit peu les Écritures pour savoir l'âge qu'il avait au moment que le Seigneur lui a fait la promesse. Abraham était âgé de 75 ans à sa sortie de Car. Donc, à 40, 75 ans, là il est rendu à 85, puis il se dit comment ça va se réaliser tout cela et comment ça va avoir des problèmes dans sa tête. Alors, dans le passage de Genèse 15, Abraham a 85 ans. La promesse, ça lui a été faite il y a 10 ans. Et Abraham commence à manifester des signes d'impatience dans le verset 3. Sa remarque ressemble à un reproche et témoigne de sa complète incompréhension. On a-tu déjà fait ça, nous autres, les croyants, des reproches à Dieu? Non? Vous êtes meilleurs comme moi. Dieu va le rassurer verbalement. À remarquer ici qu'il ne lui dit pas « Sois patient, mon ami. Dans 15 ans, je vais t'en donner un fils. » Il dit « Tu vas avoir un fils qui va sortir de tes reins. Ce ne sera pas ton serviteur. » Mais il ne lui dit pas combien de temps ça va prendre encore. Donc, à quelque part, il avait besoin d'être réconforté parce que ce n'est pas évident. Là. Le Seigneur, oui, tu vas m'en donner un enfant, mais quand? Ça va prendre combien de temps? Alors, Dieu veut le rassurer verbalement dans les versets 4 et 5. Cependant, comment on fait pour savoir quel âge tu vas avoir lorsque ça va se réaliser? Là, il faut aller dans Genèse 17, versets 15 à 17. Et Dieu dit à Abraham, « Quant à Saraï, ta femme, tu n'appelleras plus son nom Saraï, mais Sarah, qui veut dire princesse, sera son nom. Et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, et elle deviendra des nations, des rois de peuples naîtront d'elle. » Et Abraham se jeta sur sa face et il rit. Et il dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme âgé de 100 ans? » Donc, autrement dit, ça c'est à cette époque-là qu'il a eu son fils à 100 ans. Et Sarah, est-ce à l'âge de 90 ans qu'elle enfantera? Imaginez-vous une femme qui se fait dire qu'elle va avoir un fils, puis elle est rendue à 90, là, quelque part, elle peut avoir des petits problèmes de doute, ça c'est sûr, quelque part. Alors, le Seigneur lui fait une rectification. Dans le verset 4, il dit, « Voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant, « Celui-ci n'héritera pas de toi, mais celui qui sortira de tes entrailles, autrement dit son propre fils, sera celui qui héritera de toi. » Alors, il lui donne une réponse, il lui dit ce qui ne sera pas, puis il lui dit aussi ce qui va être. Alors, ce qui est important à réaliser dans ce passage-là, c'est de réaliser qui est la postérité d'Abraham. Si on ne réalise pas ça, on manque le bateau. Parce que, voyez-vous, dans Galates 3.16, c'est le Nouveau Testament qui interprète l'Ancien. Alors, dans Galates 3.16, ça dit, « Or, les promesses ont été adressées à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et à tes postérités » au pluriel, comme s'il parlait de plusieurs, mais comme parlant d'une seule. Et voyez-vous, les Écritures sont d'une clarté limpide. Et à ta postérité, qui est le Christ. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité, qui est le Christ. Alors, et le verset 5 nous montre comment le Seigneur a rectifié. Il dit, regarde, sors dehors. Sûrement qu'il n'y a pas de pollution nocturne à ce moment-là. Alors, regarde au ciel, lève tes yeux par en haut. Il dit, il le fit sortir dehors, il dit, regarde au ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta postérité. Alors le Seigneur vient lui faire prendre conscience que la promesse qu'il va y avoir des élus, des personnes sauvées dans toutes les nations de la Terre au cours de l'histoire, il lui montre les étoiles pour lui montrer jusqu'à quel point ça va être nombreux. Et dans le verset, la troisième partie, la foi d'Abraham a besoin d'être renforcée. Voyez-vous, le verset 6 est important parce que ça dit « Et Abraham crut à l'Éternel qui lui imputa cela à justice. » On a la première mention de la notion théologique d'une grande importance, l'imputation. L'imputation, c'est mettre sur le compte de. Alors Dieu met sur le compte d'Abraham le fait qu'il croit au Messie à venir. Pas sa foi comme telle, c'est qu'il croit au Messie. La foi doit avoir un objet. Et l'objet de la foi, c'est Jésus-Christ. Il avait compris que sa postérité, c'était Jésus-Christ. Alors, le verset 6 comprend deux éléments. « Et Abraham crut à l'Éternel », qui parle de la foi qui sauve. Et dans la deuxième partie, c'est dit « qu'il lui imputa cela à justice », qui parle du très important concept théologique de l'imputation. Je vous le dis, là. Quelqu'un qui comprend le concept de l'imputation en théologie a compris vraiment un gros morceau. Parce que c'est en train... l'imputation m'a pris du temps de comprendre ça. C'est à l'école biblique que je l'ai compris. Et il avait beau m'impliquer de me parler d'imputation puis d'impartation. Puis en plus, c'est en anglais, tu sais. Impartation, imputation. Je suivais pas, je comprenais pas. Jusqu'à ce qu'il fasse de cela un concept un comptable. À ce moment-là, je faisais une job de comptabilité. Ah, là, ça l'a allumé. Si tu mets sur quelque chose, disons que j'avais un compte, puis tu me dis, OK, donne-moi ton numéro de compte, je vais te transférer de l'argent. Je t'envoie 100 000, je te transfère de mon compte à ton compte. Là, tu vas comprendre c'est quoi, hein, l'imputation? L'imputation, c'est mettre sur le compte de quelqu'un. Alors, il était en train de vouloir lui impliquer, il lui impliqua cela à justice. Et la preuve que cela, que c'est vrai, parce que les Écritures en parlent dans d'autres passages, comme dans Romains. Très important de comprendre que Dieu en parle dans d'autres passages. Alors, la foi qui sauve, Romains 4, verset 3 et verset 18 à 25. Car que dit l'Écriture? Qu'Abraham a cru à Dieu et que cela lui a été imputé à justice dans le Nouveau Testament. Là. Dans le Nouveau Testament, on est en train de parler de cet événement-là qu'on est en train de lire ce matin. Et versets 18 à 25, « Et Abraham, ayant espéré contre espérance, crut qu'il deviendrait le père de plusieurs nations, selon qu'il lui avait été dit, ainsi sera ta postérité. Et n'étant pas faible en la foi, il n'eut point égard à son corps qu'il y était déjà amorti, vu qu'il avait environ 100 ans, ni à l'âge de Sarah, qui était hors d'état d'avoir des enfants. Et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par défiance, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que celui qui lui avait fait la promesse était puissant aussi pour l'accomplir. C'est pour cela que lui a été imputé à justice. Or, que cela lui a été imputé à justice, il n'a point été écrit seulement pour lui, mais aussi pour nous, à qui aussi il sera imputé, à nous, dis-je, qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, qui a été ressuscité pour notre justification. Tu es en train de parler du concept de l'imputation. Il dit, comme il a été fait à Abraham qui croyait au Messie à venir, vous êtes des croyants qui, après que la venue de Jésus. Donc, nous, on croit au Jésus venu, lui, il croyait au Jésus à venir. C'est bon, les deux, t'as bon. Jacques 2, verset 23, « Et qu'ainsi cette écriture fut accomplie, qui dit, « Abraham a cru en Dieu, et cela lui a été imputé à justice, et il a été appelé l'ami de Dieu. » La foi qui sauve comprend trois éléments. Croire à la parole de Dieu. Comment le salut va se réaliser dans la vie d'un individu? Dieu le dit dans sa parole, et si je le crois, c'est déjà le premier élément que ça prend dans la foi qui sauve. Alors, il crut au Seigneur promettant. Le Seigneur lui fait une promesse. Et il crut aussi au Seigneur promis. Dieu lui parle, il croit au Seigneur promettant, le Père, mais il croit aussi à Dieu, au Messie, au Messie promis qui s'en vient. Alors, le Messie à venir, comme on a dit tantôt dans Galates 3.16, et la postérité d'Abraham, c'est Jésus-Christ. Donc, le premier élément de la foi qui sauve, c'est croire à la parole de Dieu. Le deuxième élément, c'est croire en l'Éternel. Le patriarche a foi dans le Seigneur qui lui fait ses merveilleuses promesses. C'est à remarquer, on peut souscrire aux vérités de l'Évangile sans se fier au Seigneur. Mais lui, ici, il a cru aux vérités de l'Évangile, mais il s'est fié au Seigneur. Donc, croire en l'Éternel. Et la troisième, c'est vraiment persister dans la foi. Abraham a une foi qui continue. Elle n'est pas éphémère, elle n'est pas un accident de parcours dans sa vie. La foi qui sauve ne procède pas d'un coup de tête momentané. Elle s'appuie sur Jésus-Christ, seul, pour le temps et pour l'éternité. Alors la justification, je vous en ai parlé souvent, on va la reviser rapidement, comprend deux éléments. Le péché qui n'est pas imputé, qui n'est pas mis sur notre compte à nous. Pourquoi Dieu ne nous jugera pas pour nos péchés? C'est parce que nos péchés ont été placés sur Jésus-Christ que Dieu a jugé nos péchés sur la personne de Christ. Donc, nos péchés, ils sont pardonnés. Ça dit dans le psaume 32, verset 1 à 2, « Oh, que bienheureux est l'homme à qui l'Éternel n'impute point son iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Alors, nos péchés, comme croyants, ont été placés sur Jésus et le Père a jugé nos péchés sur Christ. Et la deuxième partie de l'imputation, c'est que les croyants se voient crédités de la justice morale de Christ qui a satisfait à toutes les exigences divines de justice. Le fameux 2 Corinthiens 5:21, je vous l'ai dit souvent, je vous le redis, vous allez m'entendre souvent le dire, rentrez-les dans l'esprit, parce que c'est le verset qui résume l'Évangile. 2 Corinthiens 5:21, « Car il a fait celui qui n'a point connu le péché, il, le Père, n'a point... il a fait le Christ, le fait devenu être péché pour nous. » Il a fait que le Père a considéré que le Fils était devenu péché, être péché pour nous, afin que nous fussions justice de Dieu en lui. Les deux aspects sont là. Il a pris nos péchés, il les a mis sur Christ, le Père a jugé nos péchés sur Christ à notre place. Et la justice que Christ a fait sur la terre, il l'a pris puis il l'a mis sur notre compte à nous. Voyez-vous, l'imputation, c'est une question de mettre sur le compte. Il a pris nos péchés, puis il l'a mis sur le compte de Christ, puis il a pris la justice de Christ, puis il l'a mis sur notre compte à nous. Quel bel échange! Quel bel échange! Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir du texte d'aujourd'hui? Louons le Seigneur parce qu'il est le Dieu du réconfort. Comme Dieu a réconforté Abraham aussi, il va nous réconforter. Deuxième idée, adorons notre grand Dieu car il sait comment rectifier notre foi lorsque cela est nécessaire? Il le fait pour Abraham, il va le faire pour nous aussi. Et troisième application, implorons le Seigneur de mieux nous faire comprendre la doctrine de la justification. Jamais quelqu'un ne comprendra assez, et dans toute sa richesse et dans toute sa profondeur, la doctrine de l'imputation, parce que quand tu comprends, tu comprends un gros morceau, je vous le dis. Alors, que la glorieuse personne de Jésus-Christ sois béni, loué et adoré éternellement. Amen, amen et amen.